France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour ce dernier rendez-vous des carnets 2021, nous nous arrêtons une nouvelle fois en Haute-Garonne, et plus précisément dans le quartier des Pradettes à Toulouse. Situé à l'ouest de la ville, ce quartier a connu la plus forte augmentation de population de la commune entre 1990 et 2000. Même si de nouveaux projets de logements sont dans les cartons de la mairie, des habitants ont créé une association en vue d'installer une oasis agro-urbaine. Nous conclurons ensuite notre tour d'horizon des lauréats de la Fondation La France S'engage avec l'association à portée nationale Règles élémentaires.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Philippe Le Bailly, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, Philippe, nous allons parler de l'association Nature que vous co-présidez. Nature, alors il faut tout développer, ces nouvelles agricultures en territoire urbain pour le rassemblement et l'émancipation solidaire. Dans le quartier des Pradettes à Toulouse, alors c'est un quartier où vous vivez, vous êtes membre aussi engagé auprès d'Alternativa à Toulouse, et vous êtes porteur d'un vieux projet, c'est un projet d'agriculture urbaine.
Tout à fait, donc c'est un projet qui est né de propositions d'idées d'habitants en 2019 dans le cadre d'un budget participatif, et ce projet d'agriculture urbaine consiste à la mise en place de trois pôles complémentaires, une ferme maraîchère avec des professionnels, un jardin pédagogique et un jardin partagé, là où la mairie a prévu de construire 300 nouveaux logements supplémentaires sur la partie la plus densifiée du quartier.
Oui, et vous avez participé quand même, je le signale, en 2019, à un appel à projet de la mairie Toulouse, je participe, des habitants des Pradettes, et vous avez été parmi les premiers projets plébiscités.
Oui, donc ça, c'était le démarrage du projet, et donc déjà, on avait récolté 500 votes de soutien, donc c'était au tout début du projet, et en janvier 2020, parmi 30 projets qui étaient soumis au vote des habitants de la région Occitanie, notre projet est arrivé premier avec 1800 votes. Donc c'était une reconnaissance importante. Et puis ça nous a permis l'attribution d'une subvention de 150 000 euros de la région qui permettra le financement des installations de ce projet de ferme urbaine.
Alors aujourd'hui, vous en êtes où de ce programme ?
Alors là, suite à un travail d'information auprès des habitants et de mobilisation en 2019 et 2020, la mairie nous a accordé en décembre 2020 un délai de 15 mois pour finaliser notre dossier. Donc sur l'année 2021, on a continué de consolider des soutiens. On a eu aussi une labellisation par la Commission européenne comme étant ambassadeur du pacte européen pour le climat. Donc ça, c'était aussi un autre niveau de reconnaissance. Et puis, on commence à être dans des parties d'expérimentation concrète, donc le dispositif de panier alimentaire solidaire. En octobre, après plusieurs mois de négociations avec la mairie, on a eu l'autorisation d'expérimenter le jardin pédagogique éphémère sur l'année scolaire. Là, il y avait 14 structures éducatives du quartier qui étaient en attente. Donc, progressivement, on consolide des financements, des soutiens et des reconnaissances, et puis on peut enfin expérimenter des choses concrètes dans le quartier avec les habitants.
Mais il y a toujours un programme immobilier porté par la mairie de Toulouse ?
Oui, donc la mairie pour le moment a mis en attente de l'échéance du mois de mars, mais on sent que la mairie pour le moment n'a pas encore changé de priorité. On espère que les rapports successifs sur l'urgence climatique, comme celui du rapport du GIEC de cet été, ou des enjeux de changement de pratiques alimentaires ou d'urgence sanitaire et sociale, vont convaincre la mairie de changer de priorité, parce que là, on a un projet qui peut entraîner tout un quartier, avoir un impact sur tout un quartier et sur les quartiers limitrophes, en termes d'adaptation au réchauffement climatique, et puis en termes aussi de lutte contre la précarité alimentaire par l'accès à une alimentation de qualité, quoi. Ouais.
D'autant que votre quartier, si je ne m'abuse, déborde déjà en matière de densité démographique.
Oui, sur si on prend entre 2014 et 2020, le quartier a connu une augmentation de 25% sur sa population, donc en 6 ans. Et cela se poursuit là en 2021. Il y a encore de nombreuses nouvelles constructions. Il y en aura dans les années à venir. Donc on se dit, il reste plus qu'une seule friche verte publique qui appartient à la mairie et qui est située quand même au cœur de la partie la plus densifiée. Donc on pense, nous, sur la nécessaire adaptation aux futures canicules qui vont être de plus en plus fréquentes et denses, de préserver cet îlot de fraîcheur pour les habitants des immeubles qui entourent cette friche municipale.
Exactement. Nature, ça s'écrit avec un S, et le S de solidaire, c'est le plus important. nature-pradette.org pour l'adresse de l'association. Merci Philippe.
Merci, bonne journée.
France Inter, carnet de campagne.
Parmi les dernières initiatives offres de services solutions du mieux vivre, nous avons reçu il y a le courrier de Marion, membre de l'équipe Un Grand Marché. Un Grand Marché fait suite à la disparition d'une plateforme reconnue dans le domaine du fait main en France, Little Market, racheté en 2017 par son homologue américain Etsy. Paraît-il que sur les réseaux sociaux, ça avait fait un petit peu de bruit. Du coup, quelques mois après la fermeture de cette plateforme, deux copains d'enfance, Pierre et Nicolas, qui rêvaient adolescents de faire, je cite, un truc un jour ensemble, vont créer une nouvelle plateforme, donc un grand marché. Finalement, on reprend la même idée, mais en la protégeant des prédateurs et en valorisant au maximum le Made in France. Donc un grand marché, c'est une plateforme à partir de laquelle vous pouvez vendre ou acheter des créations faites main et des articles de mercerie. Amateurs et professionnels peuvent profiter de cette vitrine plutôt bien faite, au passage, je vais aller la vérifier avant de vous en parler, puisqu'elle met en avant des portraits de créateurs. Pour l'instant, ils sont plus de 28 000 vendeurs inscrits sur cette plateforme et ça continue. Toute personne intéressée peut dès lors avoir sa boutique en ligne depuis la plateforme. Le site, c'est ungrandmarché.fr. Et puis, comme nous bouclons l'année avec le jeu en Haute-Garonne, je vous soumets l'exemple de la très utile association Solidarité Emploi Midi-Pyrénées, qui depuis 1986 a constitué une petite cagnotte qui permet aux personnes désirant créer leur activité de bénéficier d'une aide financière sans intérêt. Cette association toulousaine a financé déjà plus d'une centaine de projets grâce à son fonds composé de remboursements de prêts, de souscriptions d'adhérents, ainsi que de dons d'entreprises. Pour obtenir ce soutien qui plafonne à 5000 euros sur 48 mois, il faut présenter un projet certes viable, mais aussi d'utilité sociale et ou écologique. Et il faut être basé en Haute-Garonne ou dans un département limitrophe. Il y a une adresse électronique de transmission du dossier qui s'affiche à nos pages d'émission, franceinter.fr, à notre page Facebook. Et après réception du dossier, une rencontre est organisée avec un bénévole de l'association. Le site, c'est solemp.midipi.free.fr. C'est un petit peu long, mais vous prenez Solidarité Emploi Midi-Pyrénées et vous avez le titre exact. Maude Leblon, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes encore une lauréate, puisque toute cette semaine, nous l'avons consacrée aux lauréats des dernières remises de prix de la Fondation La France S'engage. Vous êtes une toute nouvelle directrice générale de Règles élémentaires. Là, on va parler de cette association, mais vous connaissez la solidarité, la finance solidaire, le travail et l'engagement auprès d'ONG, ensuite le développement du groupe SOS. C'était presque logique que vous arriviez dans cette association.
Tout à fait, oui, surtout dans mes dernières expériences, j'ai notamment été amenée à travailler auprès de femmes en grande fragilité. C'est là où j'ai constaté le besoin flagrant de pouvoir adresser cette question de la précarité menstruelle.
Et donc
je rejoins avec joie Règles élémentaires.
Beaucoup d'associations se battent contre cette précarité menstruelle, on a parlé, mais fin 2020, vous estimez que 2 millions de femmes en France sont victimes de cette précarité. Elles étaient 1 700 000 en 2019. Une augmentation qui est liée certainement à la crise sanitaire.
Tout à fait. Le lien est très clair, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir ces règles en France, ça coûte cher. Ça coûte entre 250 et 500 euros par an et par femme, alors en fonction des estimations. On comprend vite, du coup, que pour les personnes les plus en fragilité, c'est très compliqué de pouvoir avoir à disposition les produits nécessaires, et on constate vraiment une évolution dans le mauvais sens, si je peux dire, de cette tendance, notamment, par exemple, au sein des milieux étudiants, où les dernières dernières études montrent que près d'un tiers des femmes sont en difficulté pour pouvoir avoir accès à des protections hygiéniques.
Et on en parle peu parce qu'il y a encore un tabou.
Ah, tout à fait. Il y a un tabou. Il y a un tabou séculaire hein, qui associe les règles à quelque chose de honteux. Voire peut susciter du dégoût, etc. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire dans ce sens, et c'est ce que fait l'association pour partie du coup en mettant à disposition des protections aux personnes au profit des personnes qui en ont le plus besoin, mais aussi en travaillant à lutter pour briser le tabou des règles dans toutes les sphères de la société, hein, auprès du grand public, au sein des entreprises, dans les milieux scolaires et universitaires.
Alors, je reprends le nom de règles élémentaires. Dans l'élémentaire, il y a un principe de base, c'est l'éducation. Est-ce que vous avez le pouvoir d'éduquer, entre autres, les jeunes filles et les jeunes femmes?
Tout à fait. En tout cas, c'est un axe qu'on souhaite vraiment développer à l'avenir. On sait que voilà, l'éducation, c'est très important et que plus vite on peut sensibiliser les personnes, les garçons et les filles hein, à ces sujets qui sont pour nous essentiels, et mieux ils sont pris en compte dans la société par la suite. Donc effectivement, on développe des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire, pour permettre un apprentissage aussi en mixité et pour sensibiliser et favoriser les échanges sur ce sujet, bien sûr.
Les règles élémentaires est aussi une plateforme de mobilisation citoyenne. De quelle façon pouvez-vous mobiliser et quel est le résultat?
Alors effectivement, nous, on pense vraiment que c'est l'affaire de toutes et tous hein, que de pouvoir agir pour lutter contre la précarité menstruelle. Et donc Règles élémentaires, qui a été créée en 2015, a développé donc une plateforme pour faciliter l'engagement citoyen de chacun en organisant notamment des collectes, donc au profit des personnes en situation de fragilité. Donc c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site internet et tout un chacun est invité à pouvoir organiser une collecte. On met à disposition évidemment le matériel de communication notamment, mais aussi de pédagogie, et ensuite on met en relation avec des associations qui récupèrent les produits collectés.
Et les organisateurs, la plupart du temps, sont eux-mêmes des associatifs?
Pas tout le temps, non, c'est vraiment les citoyens et les citoyennes qui se mobilisent, qui peuvent être tout un chacun, tout un chacune, et l'objectif c'est vraiment de pouvoir mobiliser très largement. Aujourd'hui on a près de 3000 collectes qui ont déjà été organisées, 10 millions de produits hygiéniques qui ont été collectés et qui ont été reversés au profit de 130 000 bénéficiaires partout en France. On a 8 antennes et plein d'autres à venir. Les deux dernières en date ont été créées à Nantes et à Mayotte. Et on essaye de couvrir le plus largement le territoire français et d'outre-mer pour pouvoir apporter des solutions à toutes et tous.
Ouais, Règles élémentaires existent depuis quelques années. Qu'attendez-vous de ce prix de la Fondation La France Engage, et que va-t-il vous permettre de développer?
Alors, il va falloir nous développer deux choses principalement. La première chose, c'est ce que je disais, hein, de vraiment pouvoir continuer à couvrir le territoire national en développant un maximum d'antennes, en mobilisant un maximum de bénévoles et de partenaires autour de nos projets. Et il va surtout aussi pouvoir nous permettre de développer encore plus en profondeur nos contenus de sensibilisation et d'éducation au profit des publics scolaires, mais pas seulement, au profit du grand public, parce qu'on pense qu'il y a encore vraiment un sujet à pousser, à défendre, et on pense que chacun peut prendre sa place dans ce combat et dans cette lutte contre la précarité menstruelle.
Et chaque bénéficiaire du prix a droit à un accompagnement sur 3 ans?
Tout à fait. Un accompagnement sur les thématiques qui sont en cours d'identification. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir des experts ou des partenaires qui nous soutiennent sur certains points de notre développement. Et ça, c'est vraiment très riche parce que on est très bien entouré, mais on reste une petite association en développement qui cherche conseil et soutien là où elle peut le trouver.
Un mot de le développement, vous le connaissez avec le groupe SOS, je pense entre autres à l'opération 1000 cafés qui perdure. Donc vous savez ce que c'est que le changement d'échelle, la duplication?
J'espère savoir ce que c'est. En tout cas, c'est tous les challenges qu'on va relever dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et effectivement, on a quelques bonnes initiatives desquelles on va pouvoir s'inspirer. Et d'ailleurs, d'anciens lauréats aussi de la France Engage qui ont réussi de très beaux développements et du coup de très forts impacts. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour Règles élémentaires.
Bon, on souhaite une belle année 2022 à l'association Règles élémentaires. Ça s'écrit au pluriel, règleselementaires.com. Merci Maud.
Tout à fait. Je vous remercie. Bonne fin d'année à vous aussi. Au revoir.
Les amis, avant de vous laisser profiter du passage vers la nouvelle année, je vous rappelle que nous débuterons le mois de janvier par les initiatives dans les départements du Tarn, du Loiret, de Lyon et de Seine-et-Marne. N'hésitez pas à rejoindre les carnets avec vos actions, vos entreprises et vos initiatives locales. Merci à Joël Levert qui apportait du contenu au carnet. Merci aux techniciens, techniciennes, comme je dis à chaque fois, de France Inter qui donnent du corps à ces carnets en particulier. Merci à Clément Vuillet.